Et avec votre esprit.
L'évangile de Jésus-Christ selon saint
Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jean-Baptiste. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et d'autres disciples, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a pris pour nous. Pierre partit donc avec d'autres disciples, tout se rend le tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à poids. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à poids, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'on trouva l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
La fête de Pâques est au cœur de toutes les célébrations chrétiennes. C'est le cœur, c'est le centre de notre foi. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne que nous continuons encore aujourd'hui, la fête pascale ne se célèbre pas uniquement le dimanche de Pâques. Il faut prendre 8 jours pour le faire. Et les 8 jours qu'il faut le faire, en fait, c'est ce qu'on appelle l'octave pascale. Alors, l'octave pascale, c'est quoi? On prend 8 jours et on essaie d'approfondir le mystère. On essaie d'entrer à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. En fait, la grande tradition dit, 8 jours, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre 50 jours pour approfondir le mystère pascal, du jour de Pâques, de la fête de Pâques, jusqu'à la fête de la Pentecôte. 50 jours pour célébrer les grands événements de notre foi. Et les grands événements de notre foi, c'est quoi? Eh bien, c'est la résurrection de notre Seigneur. Et la grande tradition l'appelle, en fait, il l'appelle le grand dimanche. Ça, c'est le grand dimanche. Je vais prêcher par là parce que je vois que mon micro fait des bruits. Je me suis déplacé pour vous réveiller davantage. En fait, quand on veut réfléchir sur la signification du mystère pascal, moi je me dis, il faudrait qu'on se contente des textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Quand tu prends par exemple l'évangile d'aujourd'hui, qui est en fait la rencontre entre Marie-Madeleine et le ressuscité. J'ai lu un commentaire magnifique que j'ai beaucoup aimé et qui vient de l'abbé Pierre, le français en fait qui était bien connu, qui est mort il y a quelques années, à plus de 90 ans, et puis qui s'est beaucoup donné dans le travail des sans-abri. Alors lui dit ceci. À 17 ans, alors qu'il voulait entrer au noviciat, il a entendu cet évangile être proclamé dans l'église. L'évangile de la rencontre entre Marie-Madeleine et le ressuscité. Et il dit, pour lui, cet évangile est venu le chercher, et chaque fois qu'on le lit, il a comme les larmes qui coulent dans ses yeux. Pourquoi? Il dit, pour lui, la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine, selon lui, c'est la rencontre entre l'humanité et le Seigneur ressuscité. Regardez, Marie-Madeleine, elle est à la recherche de Jésus. En fait, elle est à la recherche du cadavre de Jésus. Alors, elle est enfermée dans ses pleurs, dans sa douleur, dans son deuil. Elle est retournée sur elle-même, à tel point que, quand elle voit Jésus dans le jardin, elle ne le reconnaît pas, elle ne peut pas l'apercevoir. Pourquoi ? Parce qu'enfermée sur elle-même, l'humanité, quand elle cherche Dieu et qu'elle reste renfermée, recroquevillée sur elle-même, elle ne peut pas saisir, elle ne peut pas percevoir Dieu. Si l'humanité reste renfermée sur ses suffisances, sur son orgueil, elle ne peut pas s'ouvrir à Dieu. Il a fallu l'intervention du ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il pose la question, pourquoi pleures-tu ? Et c'est la question que Dieu nous pose. Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie ? Où veux-tu aller ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Alors elle dit, ben moi je cherche mon Seigneur, on l'a mis dans le tombeau et puis il n'y a plus personne. Alors le Seigneur, Marie. Alors là, tout d'un coup elle devient saisie et se rappelle comment Jésus appelait son nom. À ce moment-là, ses yeux s'ouvrent, elle voit le Seigneur. À ce moment-là, elle répond, Rabouni, qui dans la langue hébraïque veut dire, mon maître chéri. Mon maître à moi, celui à qui j'ai donné ma vie. On raconte que Gandhi, ses disciples l'appelaient Gandhichi. C'est un peu dans ce sens-là. Donc quelqu'un de plus intime, tu ajoutes comme un petit diminutif, voyez-vous. Donc Rabouni, comme dire je suis habitué à toi, c'est toi que j'aime, c'est toi que je porte dans mon cœur, Rabouni. Alors pour dire en fait, quand nous découvrons l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité, et que nous sommes saisis par l'amour sincère, authentique de Dieu, on ne peut que crier de cette joie-là, de cette foi de Marie-Madeleine, Rabouni, mon Seigneur et mon Dieu, le Dieu de ma vie, celui qui m'a appelé à l'existence, celui qui fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Mais en fait, quand tu réfléchis à fond, et tu te poses la question de savoir c'est quoi l'amour de Dieu en fait. Quand on prend l'événement de la résurrection comme tel, regardez, le Seigneur envoie son Fils dans le monde. Son Fils vient, il prêche, il nous enseigne, il montre le chemin de la foi, le chemin de la vérité. Il nous fait sortir de nous-mêmes, de nos orgueils, de notre péché, de nos ténèbres, et il nous ouvre la voie de la vie, la voie de l'amour. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous l'avons crucifié sur la croix. Alors là, Dieu l'a ressuscité. Et vous savez quoi ? Dieu ne l'a pas ressuscité pour se venger contre l'humanité. Il a ressuscité pour nous le redonner. Le ressuscité est encore là pour nous. Parce que le Dieu qui l'a ressuscité ne tourne pas son dos contre nous. Il ne dit pas, je vous laisse à vous-même, vous avez tué mon fils. Il revient encore avec plus d'amour et il nous offre la miséricorde. Alors quand il est fait, c'est comme Jésus dit Marie. C'est-à-dire que Dieu nous appelle par notre nom. Quand Dieu nous appelle par notre nom, c'est-à-dire qu'il nous saisit, il nous aime. Vous avez déjà entendu certains parmi nous qui disent, mais non, moi je n'aime pas qu'on m'appelle par ce nom-là. Mon nom c'est ceci. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom. C'est qu'il te saisit, qu'il te trappe, qu'il t'attrape dans tes tripes. Et quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est pour que justement tout se réveille en toi, pour qu'il te déclare son amour. Il te dit, voilà, je t'appelle Marie. Alors, c'est pour te prendre avec lui. Je reste convaincu, personnellement, que le jour où nous avons été conçus dans le sein maternel, ce jour-là, Dieu a prononcé notre nom. Ce jour-là a commencé l'histoire merveilleuse de l'amour entre Dieu et nous-mêmes. Mais maintenant, cette histoire d'amour, nous devons voir comment y répondre. Dieu qui nous aime tant, à la folie. Mais il faudrait répondre adéquatement. Mais comment répondre adéquatement ? Paul, dans la deuxième lecture, nous montre comment le faire. Il dit, eh bien, nous avons été unis au Christ ressuscité. Où est le Christ ressuscité, dit-il? Il est dans les hauteurs. Il est en haut. C'est là qu'il faut se trouver. Là où il y a les valeurs chrétiennes, là où il y a l'amour, le pardon, la miséricorde, l'accueil, le partage, c'est là qu'il faut aller. Si on veut rester là, en bas, eh bien, on reste victime de nos vices, de notre orgueil, de notre suffisance, de notre égoïsme. On reste dans le bas. Alors, nous les chrétiens, par le baptême, nous avons été unis au Christ, que il faut chercher la réalité d'en haut. Si on veut vivre avec le Christ qui nous a ressuscité et avec qui on a été unis au baptême, montons, allons le rejoindre là où il est, c'est-à-dire là où il y a la réconciliation, l'entente, la fraternité et l'amitié. Alors, quand on se trouve à ce niveau-là, alors on peut vivre la vie de contact, la vie d'amour avec lui. J'aime beaucoup l'exemple, une réflexion de saint Augustin. Lui, il dit ceci. Il dit, deviens ce que tu es. Regardez, le jour de notre baptême, vous et moi, on a été baptisés, c'est vrai. On est devenu, on a été déclaré enfant de Dieu. Tu es ma fille, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Oui, il n'y a pas de doute. Mais maintenant, il faut devenir ce que tu es. Qui tu es? Enfant de Dieu. Comment on le devient? Eh bien, chaque jour, en faisant, en prenant une attitude, c'est à ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Alors en fait, c'est dans le quotidien, c'est dans le train-train de la vie, c'est dans les actes de tous les jours qu'on renaît, qu'on joint le Christ, qu'on s'unit à lui dans les hauteurs où il y a l'amour, où il y a l'accueil. Je ne sais pas si... Il y a une histoire qui m'a beaucoup touché, vous l'avez entendu aux médias, ça s'est passé le 23 mars, le décès du lieutenant-colonel Beltrame, Arnaud Beltrame le Français. Il est mort, je crois qu'il avait 40 ans, ou presque 40 ans. Voici ce qui se passe dans sa vie. Eh bien, Arnaud, il s'est converti. Il est venu d'une famille catholique comme vous et moi, mais non pratiquante, comme nous en connaissons beaucoup. Alors, à un moment donné, à 33 ans, plus ou moins, il s'est converti. Il a fait une expérience de Dieu. Il est devenu un chrétien convaincu, un catholique convaincu. Et tout son entourage reconnaissait sa foi. Il n'hésitait pas à dire qu'il était un converti et qu'il était catholique, qu'il vivait sa vie catholique. En 2005, parce qu'il s'est converti en 2008. Alors, en 2015, d'abord, il fait deux ans de catéchuménat pour recevoir sa première communion et sa confirmation. Deux ans pour la première communion et la confirmation. Quand c'est fait, il s'est dit non, moi je suis prêt à me marier. Voici comment je vais faire. Je vais prendre une retraite, je vais aller dans un centre marial, je vais demander à la Vierge qu'il m'envoie la femme de ma vie. C'est ce qu'il a fait. Il est parti dans un sanctuaire, il a imploré la Vierge. Et selon lui, la Vierge lui a donné la femme de sa vie. Elle s'appelle Marielle. Elle avait sa foi aussi, ils se sont entendus, ils se sont mariés civilement en 2016. Voilà que, alors qu'il visitait l'abbaye de la Grâce dans la région de Toulouse, il rencontre ce prêtre-là, le père Jean-Baptiste, un homme sympathique, et ils sont comme devenus amis. Et du coup, le couple lui demande de leur préparer en mariage, de préparer, faire la préparation de mariage pour se marier religieusement, chrétiennement. Ils ont fait le plan, ça allait prendre deux ans, il allait les marier au mois de juin, qui s'en vient ici. Il suivait des préparations. Et voilà que, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, le supermarché en Aude. Eh bien, il y avait des otages dans ce supermarché. Lui de la gendarmerie était là. Il s'est dit, je vais me substituer à cet otage qui est là et qu'on veut tuer. Et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, les choses ont tourné, qu'il a perdu sa vie là. Mais quand tu réfléchis, tu regardes autour de toi, tu regardes ce qui s'est passé autour de lui. Toute la France est venue célébrer cet homme-là. Oui, mais quand tu réfléchis sa vie, tu écoutes les témoignages, les gens qui l'ont connu. Eh bien, ils disent, en fait, cet homme-là, il est mort comme il vivait. C'était au quotidien qu'il était gentil, qu'il était un homme de Dieu, un homme de valeur. C'est au quotidien que pour lui, les gens de la gendarmerie étaient là pour protéger le peuple. Et voilà que, avec ses convictions et avec sa foi chrétienne, sa foi catholique, quand il a senti qu'à ce moment-là, on avait besoin de lui, il a donné sa vie pour cet otage-là. Dans la première lecture, Pierre disait que Jésus a passé ce monde en faisant du bien, partout où il allait. Et moi je me dis, Arnaud, après sa conversion, avec son amour pour le Christ, il faisait du bien partout où il passait, parce que les gens en témoignent, qu'ils ne s'étonnent pas vraiment comment il est allé jusqu'au bout de l'amour. C'est un exemple pour vous. C'est un exemple pour moi, un catholique d'aujourd'hui, et il a réveillé le cœur de beaucoup de catholiques en France, les jeunes. Il nous réveille aussi à nous aujourd'hui, alors que nous célébrons la Pâque, qui est en fait la fête de l'amour qui va jusqu'au bout. Quand je regarde la fin de l'évangile, Marie-Madeleine, pour revenir sur elle, Jésus l'envoie pour aller annoncer qu'il est ressuscité. « Va dire à mes frères ». Que je vais les rencontrer, va annoncer à mes frères. D'ailleurs, la tradition appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres, parce qu'elle était envoyée auprès des apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. Alors nous autres là, nous les baptisés, ici à Saint-Gabriel, alors que nous faisons la démarche de renouveler notre communauté, nous sommes des disciples missionnaires. Nous devons annoncer la résurrection. Est-ce que la foi chrétienne, c'est quelque chose qu'on impose par force? Du tout. La foi chrétienne se propose. On la propose par notre manière de vivre, par notre manière d'être. Et j'aime toujours cette réflexion de l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI, quand il dit « La foi chrétienne, ce n'est pas une affaire de doctrine d'abord, ce n'est pas une affaire de vérité d'abord. La foi chrétienne, c'est une expérience de la rencontre avec le ressuscité. » Et c'est voilà ce que nous vivons. Tu rencontres le ressuscité, à partir de cette rencontre-là, ta vie change et tu vis selon l'amour, selon la vie du ressuscité. C'est la grâce que vous et moi, nous allons demander, qu'au jour le jour, nous vivions de cet amour qui va jusqu'au bout, l'amour de la grâce du ressuscité. Amen.